Une nouvelle église victime d'exactions, c'est celle de Thiers à Poindimier qui a subi d'importantes dégradations ce matin. Une illustration que les exactions n'ont pas complètement cessé, sujet évoqué par le directeur de cabinet du haut-commissaire Théophile de Lassus qui était ce matin notre invité, extrait à retrouver dans un instant. Le collège de Tuban rouvrira ses portes à la fin des vacances. Les forces de l'ordre seront présentes plusieurs semaines pour sécuriser le quartier. Et puis à Rivière-Salée, les jeunes du RSMA ont mené une opération récupération de ce qui a pu être épargné par les émeutiers au lycée Pétro à Titi. Légère amélioration pour les structures touristiques en province sud. Elles notent une timide reprise d'activité. Le retour de l'actualité politique en métropole après les JO. Gabriel Attal écrit aux parlementaires pour aboutir à la constitution d'un bloc centriste autour d'un pacte législatif. 10 000 hectares partis en fumée en Grèce, 700 pompiers sont toujours déployés dans la région d'Athènes. Et puis du football dans la page de sport, Lille qualifiée pour les barrages de la Ligue des Champions jouera sa place dans la compétition face au Slavia Prague la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Après les incendies des églises de Saint-Louis, Thiot, l'île des Pins et Touot, un nouvel édifice religieux a été touché par les émeutiers. D'importantes dégradations ont été commises dans l'église de Thiers à Poindimier. Tôt ce matin, un ou plusieurs individus ont mis le feu à la sacristie. La chapelle et l'autel ont également été touchés, mais la structure ne s'est pas effondrée. Les pompiers ont pu intervenir à temps. Dans un communiqué publié en fin de matinée, le président de l'UPM, Victor Tutugoro, condamne avec la plus grande vigueur l'incendie perpétré cette nuit contre l'église de Poindimier, construction très ancienne et figurant au patrimoine calédonien. Quel message véhiculent ces incendiaires d'édifices religieux, s'interroge Victor Tutugoro, qui dit espérer que les coupables seront retrouvés et traduits devant la justice. L'annonce d'une nouvelle église incendiée a provoqué une vague d'indignation dans la communauté catholique, des fidèles qui s'inquiètent forcément pour leur église. Depuis le début des émeutes, certains paroissiens se sont d'ailleurs organisés pour surveiller leurs édifices religieux. C'est le cas Nicolas Legrand à l'église de l'Espérance au Haut-Magenta.
Oui, il faut dire que ça a été la première église visitée dès le début des émeutes. Et même s'il n'y avait pas eu de gros dégâts, dès le lendemain, les fidèles se sont réunis et ont mis en place une surveillance des lieux. Un dispositif qui s'est affiné avec le temps et qui a même été renforcé après les destructions des églises de Saint-Louis et l'île des Pins. Sabrina Nutupea est référente du groupe de jeunes de l'Espérance.
On a mis en place une surveillance rapprochée avec des hommes principalement pour la nuit et en journée des mamans, des femmes, des personnes disponibles en journée. Ça nous permet aussi de revoir certaines choses ou d'éventuellement travailler sur d'autres projets à venir ou entretenir l'église, voilà, passer un coup de balai, arroser les fleurs. Donc on a toujours quelque chose à faire. C'est important, pas que pour le bâtiment lui-même. On le fait parce que c'est la suite des événements, mais on le fait aussi parce que c'est pour dire aussi que même s'il y a tout ce chaos-là, ben c'est aussi se porter ce message d'espérance. Mais il est de notre devoir aussi de protéger notre foi. Donc moi, je ne vois pas que l'église, que le bâtiment, mais je vois notre foi. Mais si tout le monde perd la foi, eh bien, on a tout perdu.
Et quatre groupes se succèdent pour surveiller l'église. Chaque paroissien vigilant passe en moyenne 2 jours ou 2 nuits par semaine sur place. Ce sont donc les hommes qui sont chargés d'éviter toute intrusion la nuit. Cali est l'un des référents.
On fait des rondes, quoi. Ben, comme là, ici, on a l'église et puis on a les salles en bas. Ça fait que, ben voilà, on tourne, je sais pas, tous les 2 heures, quoi. Sinon, on se partage, par exemple, si on est 4, il y a 2 qui viennent rester en bas, et puis 2, comme ça. Les premières semaines, on a l'impression que c'était la guerre, quoi. Là, maintenant, c'est calme, quoi. Parce que bon, maintenant, il y a la police qui sont toujours là, qui tournent, et puis même, ils viennent aussi, se garer en face du fourgon. Je pensais pas qu'un jour, ça allait arriver, ces choses-là ici en Calédonie, puis surtout ici, c'est beaucoup la prière, qu'importe les religions, mais quand j'entends les autres églises qui sont en feu aussi, je sais pas qu'est-ce qui passe dans leur tête pour toucher à ça, quoi.
Et aujourd'hui, les fidèles de la paroisse et notamment les jeunes sont d'ailleurs réunis pour un temps de prière pour la paix avec une pensée toute particulière pour les églises saccagées.
La situation de l'ordre public n'est pas normalisée, mais elle est en voie de stabilisation. C'est le résumé que fait Théophile de Lassus, le directeur de cabinet du haut-commissaire qui était notre invité ce matin à 7h30. Il tient à rendre hommage aux forces de sécurité intérieure qui interviennent dans des conditions souvent difficiles. Et il affirme que l'État apporte une réponse de grande fermeté aux émeutiers.
Situation d'insécurité créée par des émeutiers. Des émeutiers qui étaient en nombre important et qui le sont beaucoup moins aujourd'hui grâce à l'action des policiers et des gendarmes, mais des émeutiers qui, pour un certain nombre, considèrent encore qu'il faut porter leurs revendications, non pas dans un cadre démocratique, mais de manière non démocratique, en cassant, en brûlant, en cherchant à faire peur. Et la réponse de l'État face à cela, c'est une réponse d'une très grande fermeté. C'est dissuader, réagir, faire en sorte qu'il y ait un travail qui est long, effectivement, un travail de police judiciaire qui permet d'aller chercher les commanditaires présumés, un certain nombre ont été interpellés sous l'autorité du procureur, et d'aller chercher là aussi sous l'autorité du procureur, et c'est lui qui communique évidemment, mais chacun des criminels et des délinquants qui ont commis un certain nombre d'actes et qui doivent répondre de leurs faits devant la justice. Et c'est pour cela que ça prend du temps, mais je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain nombre de progrès qui ont été réalisés depuis 3 mois, un certain nombre de progrès depuis le mois dernier également. Aujourd'hui, la RT1 est viable sur toute sa longueur avec un point dur à Poyan. Le Grand Nouméa est globalement stabilisé. Il y a des progrès substantiels également sur la côte Est. Donc il y a un certain nombre d'améliorations et ce travail continue et va s'intensifier, continue à s'intensifier dans les jours et les semaines qui viennent.
À Nouméa, le travail se poursuit, affirme Théophile de Lassus, même s'il reconnaît que les quartiers de Tuban et de la vallée du Tir restent des points durs. Il affirme que tout sera fait pour permettre la rentrée du collège de Tuban dans des conditions de sécurité avec un dispositif de force de l'ordre important. Et il déclare que tous les barrages doivent être levés et qu'ils seront enlevés le cas échéant. Interrogé sur la situation à Saint-Louis, qui reste le point dur avec un grand nombre d'émeutiers qui prennent en otage la population, le directeur de cabinet du haut-commissaire détaille le rôle des verrous qui ont été mis en place.
Un verrou a été mis au nord et un autre au sud de la tribu parce que nous ne pouvions pas prendre le risque que des balles perdues, de personnes qui tirent sur les gendarmes qui avaient vocation à escorter les véhicules, arrivent sur des véhicules civils. On ne peut évidemment pas risquer la vie des gendarmes comme la vie des civils qui empruntent cette route. Donc le travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail important pour à la fois empêcher des émeutiers de venir de Saint-Louis, et ça c'est une réussite de ce verrou, venir de Saint-Louis au Mont-d'Or Sud ou au Mont-d'Or Nord pour commettre un certain nombre d'exactions, et puis ensuite de travailler à mener un certain nombre d'opérations de police judiciaire, un certain nombre d'opérations d'ordre public qui visent à rétablir la circulation sur la RP1. Je veux là-dessus qu'on soit très clair. Notre objectif, il est de réouvrir la RP1 et dans les meilleurs délais.
Le verrou, il va pas rester en place éternellement.
Certainement pas. Certainement pas. L'objectif du haut-commissaire, là-dessus, est vraiment très clair. Cela prend du temps, beaucoup trop de temps. Et j'entends la frustration et la colère des habitants du Mont-d'Or Sud qui, je le disais, sont pris en otage, dont leur liberté publique, celle de se nourrir, celle d'aller travailler, celle d'entreprendre, est mise à mal par ces émeutiers qui les empêchent de le faire. Mais nous prendrons le temps qu'il faut pour arriver à sécuriser cette RP1 et arriver à le faire parce que l'adversité y est très forte. Il y a un nombre de tirs très important à Saint-Louis. Un certain nombre d'émeutiers qui veulent tuer les gendarmes et qui sont organisés pour cela.
Les opérations s'organisent et se planifient pour permettre une sécurisation dans la durée et la réouverture de la RP1 dans les meilleurs délais, affirme encore Théophile de Lassus, qui assure que les navettes n'ont pas vocation à durer éternellement, mais que l'État apporte son aide à leur mise en place. Il a également été interrogé sur la date du 24 septembre.
Le 24 septembre, d'abord, il faut le rappeler, c'est le jour de la fête de la citoyenneté. Et c'est donc à ce titre une date importante pour l'État, une date importante pour les Calédoniens, une date qui est censée rassembler. Et si certains veulent utiliser cette date pour diviser, pour attaquer, la réponse de l'État sera extrêmement ferme. Et donc là-dessus, bien évidemment, cette date du 24 septembre est préparée attentivement, comme d'autres échéances d'ordre public, pour faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de nouveaux troubles à l'ordre public et permettre à ce qui est une fête d'être une fête, mais pas avec des troubles à l'ordre public. Mais là-dessus, je veux rassurer nos concitoyens. D'abord, le nombre de forces est important, il va augmenter, vous le disiez, l'effet de surprise n'est plus là, et donc aujourd'hui, un 13 mai n'est plus possible en Nouvelle-Calédonie. Nous ne pouvons pas avoir un nouveau 13 mai en Nouvelle-Calédonie. Je peux vous assurer que la volonté du haut-commissaire, elle est bien de tout faire pour que l'ordre public soit assuré sur l'ensemble du territoire. Il y a encore un certain nombre de choses sur lesquelles on doit s'améliorer, on en a bien conscience, on a ce sujet de Saint-Louis qui nous préoccupe au plus haut point, qui fait l'objet d'une bonne partie de nos intentions, mais la détermination est complète de la part des policiers et des gendarmes.
Une interview de Théophile de Lassus à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. 11h et bientôt 40 minutes, une première pause. Nous parlerons ensuite de la perspective de la rentrée scolaire après les vacances qui se terminent dimanche soir. À tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi. Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Les élèves du collège de Tuban vont pouvoir effectuer leur rentrée normalement le 20 août prochain, après plusieurs semaines de fermeture en raison des troubles quotidiens qui ont secoué le quartier. La vice-présidente du gouvernement en charge notamment de l'enseignement, Isabelle Champmoreau, nous a confirmé la décision.
Au mois de juin, nous avions réouvert le collège et nous avions été contraintes de le fermer parce qu'on considérait que l'environnement sécuritaire n'était pas bon. Et là, on confirme que donc la réouverture du collège est bien prévue après les vacances scolaires. Donc le 19, c'est une réunion des personnels sur site et la rentrée des élèves se fera bien à partir du 20 août.
Depuis la fermeture du collège, le gouvernement a réuni tous les interlocuteurs du quartier, notamment pour répondre aux inquiétudes des parents quant à la sécurisation de l'établissement.
On s'était engagé depuis la fermeture du collège à entreprendre plusieurs séries de réunions avec les partenaires. Alors ça inclut bien sûr la SIC, puisque c'est le bailleur principal bailleur social du quartier de Tuban autour du collège. Mais nous avons aussi travaillé avec la mairie de Nouméa, qui a travaillé par exemple sur remplacer les luminaires au sein du quartier, nettoyer aussi les voiries. Et bien sûr, nous avons travaillé avec les forces de l'ordre. Et il y a eu des opérations des forces de l'ordre, mais aussi de la justice sur le quartier. Et aussi la sécurisation, ça se voit en passant dans le quartier, de certains appartements qui avaient été occupés illégalement et qui sont maintenant fermés. Donc on reste quand même très attentif à la situation, on fera des points réguliers et les forces de l'ordre vont aussi nous accompagner avec la présence de la police municipale et de la police nationale, je pense, les premiers jours et les premières semaines de réouverture du collège.
Félix, un habitant du quartier de Tuban, se félicite de voir ses deux enfants scolarisés dans ce collège reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine, un soulagement qui s'accompagne aussi de quelques craintes.
Ça fait quand même quelques semaines qu'on attend que ce collège réouvre. Aujourd'hui, on voit que le quartier est en train d'être nettoyé par les équipes de la mairie. Et on espère vraiment que les forces de l'ordre resteront en faction devant le collège. C'est-à-dire pas uniquement à l'arrivée des élèves et à la sortie. Sinon, on est vraiment ravis en tout cas que les enfants reprennent la vie et reprennent le chemin du collège. La seule petite différence par rapport à avant, il est clair, ce sera que pour le moment, en tout cas, on déposera les enfants en voiture. Parce que même si on est à proximité du collège, on n'est pas encore assez confiant pour les laisser revenir à pied au collège et revenir à pied à la maison.
Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement, a précisé qu'un premier point serait fait dès la fin de la première semaine de reprise des cours. Pendant ce temps-là, les volontaires du RSMA étaient sur le terrain ce matin à Rivière-Salée. Une compagnie de Koumac a pris en charge le déménagement du mobilier récupérable du lycée Petro Atiti, fermé depuis le 13 mai et qui a été totalement dévasté par les émeutiers, Gilles Ménage.
C'est un paysage de désolation qui s'offre au regard dans les cours et les bâtiments de ce lycée technique qui préparent essentiellement, on le sait, au métier du bâtiment. Murs tagués, vitres brisées, ateliers incendiés, le spectacle est affligeant. Mais le personnel s'est mobilisé pour un grand nettoyage, même si les stigmates des émeutes sont visibles partout. Le proviseur du lycée, Jean-Luc Barnier, était présent au plus fort de l'insurrection, il raconte.
Le lycée a fermé le 13 mai au soir. On avait encore quelques internes qui étaient là. Donc le 14 au matin, les internes ont été évacués. Les premières nuits, il y avait peu de choses qui se passaient. Il y a eu 2-3 portes qui étaient fracturées, des petites visites, mais peu de choses. Et en fait, ça a basculé vers la nuit du 16 au 17, où il y a eu les premiers incendies. Et à partir du 18, les émeutiers avaient fait leur quartier général dans le lycée. Donc c'est à partir de là qu'on a vu les choses se dégrader. Les vitres qui étaient cassées, les départs de feu. On a eu une vingtaine de départs de feu et puis surtout tout saccagé.
Les militaires du RSMA là, sont ici, c'est des jeunes pour la plupart, des jeunes du territoire qui viennent vous donner un coup de main. Ça a quelle importance ?
C'est capital puisqu'on ne dispose plus des moyens logistiques pour pouvoir assurer ce transport. Donc on a récupéré l'école Morissette de Vambé, mais les salles n'ont pas de table, n'ont pas de chaises. Donc c'est le matériel qu'on récupère ici, qu'on transporte. Bon, nous, avec nos agents, il nous aurait fallu certainement plusieurs semaines pour mener tout ça à bien, alors que là, en quelques heures, ça va pouvoir être traité avec la logistique du RSMA.
Depuis ce matin, la compagnie du RSMA de Koumac récupère donc ce qui peut l'être après le tri effectué par le personnel et déménage l'ensemble en direction de l'école Morissette de Vambé de Rivière-Salée qui va accueillir une partie des 780 élèves du lycée Atiti. Une mission qui a du sens pour tous les volontaires du RSMA, estime le lieutenant-colonel Mounou, chef de détachement du RSMA à Nouméa.
La journée d'aujourd'hui est dédiée à un transfert de mobilier. Ça sera une journée bien remplie pour les soldats qui sont venus là, pour qui cette mission a du sens, puisqu'ils ont été scolarisés aussi. Ils sont peut-être touchés directement par des cousins, par de la famille qui ont besoin de retourner à l'école. Pas ici, visiblement, mais probablement ailleurs.
Et ce matin, en effet, c'est au son des chants de marée que les jeunes du RSMA, encadrés par l'adjudant Jean-Luc, ont rempli leur mission avec une détermination particulière.
Là, vous avez la compagnie de commandement logistique et d'instruction qui est présente. de Koumac. Donc c'est que des volontaires techniciens qui sont diplômés. Ça va du CAP à la licence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a certains d'entre eux qui sont passés par ce lycée et qui ont eu une belle expérience d'études et qui voulaient perpétuer cela de par cette mobilisation pour que les autres puissent suivre un peu le même chemin qu'eux.
Une intervention du RSMA salutaire, donc, car elle permet aux élèves qui n'avaient pas de solution pour la rentrée d'être scolarisés dans une école du quartier. Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement, en charge notamment de l'enseignement.
Il nous avait déjà aidé à travailler sur deux collèges, Caméra et Rivière-Salée, et aujourd'hui il nous aide au déménagement pour Petro-Atiti. Donc c'est dans un calendrier qui est assez serré pour nous, parce qu'il nous reste encore quelques jours. La semaine prochaine, nous avons un passage de commission, notamment de sécurité, sur une école, l'école Morissette de Vambé, ici dans le quartier de Rivière-Salée, qui va nous permettre de rescolariser nos derniers élèves. Donc on avait déjà scolarisé 60% de nos élèves en travaillant avec d'autres lycées. Et là, il nous restait quand même 40% de nos élèves qui n'avaient pas trouvé de solution. Donc, on les rescolarise à Morissette de Vambé. Et dans les semaines qui suivront, on fera des travaux pour proposer aussi des améliorations pour la rentrée 2025.
Et selon le gouvernement, l'établissement lui-même ne devrait rouvrir que partiellement à la rentrée 2025. Les travaux nécessaires à sa restauration complète sont évalués à 1 milliard de francs. Quoi qu'il arrive, elle ne pourrait être achevée avant la rentrée 2026.
Enseignement toujours avec les internats des établissements de la direction de l'enseignement catholique qui sont toujours fermés. Une situation qui inquiète les institutions, mais aussi les parents d'élèves. L'association des parents d'élèves du lycée Blaise Pascal évoque même un drame humain, Léana Colombo.
Oui, par communiqué interposé, la DEC a répondu hier aux institutions pour rappeler sa situation financière compliquée. Malgré l'aide des collectivités, la DEC demandait déjà 250 millions de francs pour boucler l'exercice 2024. Des difficultés amplifiées par les émeutes de la CCAT. L'enseignement catholique a prélevé 40 millions dans sa trésorerie pour réparer les dégradations dont certains de ses établissements ont été victimes. En conséquence, la DEC a eu recours au chômage partiel pour ses 495 salariés, mais laisse également pour le moment ses internats fermés. Pour Sonia Lutringer, présidente de l'APE du lycée Blaise Pascal, c'est une difficulté supplémentaire qui arrive en plein milieu de l'année scolaire.
L'internat du lycée Blaise Pascal accueille 80 élèves. Depuis la reprise des cours en juin dernier, une trentaine ont pu revenir au lycée en trouvant un plan B. Mais ce n'est pas le cas pour cinquantaine d'autres élèves. Donc c'est sûr que cette information qui est parvenue aux parents une semaine avant la reprise des cours n'a pas été une bonne nouvelle, car le lycée avait communiqué sur la réouverture de l'internat. Donc il y avait une véritable lueur d'espoir de récupérer tous les élèves au lycée. Donc c'est sûr que c'est pas une bonne nouvelle et on ne peut que déplorer cette décision de tenir les portes de l'internat fermées.
Les élèves les plus touchés sont principalement ceux venant de Brousse et n'ayant pas d'endroit où loger sur Nouméa. C'est pour cela que l'APE a lancé un appel à la solidarité à d'autres parents qui pourraient faire office de famille d'accueil.
Nous avons adressé un message à tous les parents d'élèves du lycée Blaise Pascal, donc pour leur demander si parmi eux certains ne pouvaient pas accueillir des élèves de l'internat. Donc nous avons créé un tableau qui est alimenté par l'APE au fur et à mesure des réponses qu'on peut avoir. Nous avons créé un lien qui est uniquement visible des parents d'élèves de l'internat pour les mettre en relation avec les personnes qui pourraient accueillir un élève et nous permettre de retourner dans les bancs du lycée. Peuvent envoyer un mail à l'APE du lycée Blaise Pascal qui est la suivante: apelblaisepascal@gmail.com.
Sonia Lutringer, la présidente de l'APE, qui a rendez-vous avec la directrice de l'ADEC, Karine Cazot, à 13h, puis avec la vice-présidente Isabelle Chamorro à 14h. L'APE a également sollicité une rencontre avec la province sud qui est pour le moment restée sans réponse.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Approuvez-vous la réouverture à la rentrée le 19 août du collège de Tuban? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 91% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le succès des Jeux Olympiques de Paris aura des répercussions sur l'image de la France sur la scène internationale. Ils sont 9% à être d'un avis contraire. L'actualité en Calédonie, c'est aussi les prix à la consommation qui baissent de 0,6% au mois de juillet, selon la dernière note de conjoncture de l'ISEE, Gilles.
L'ISEE qui précise d'abord que les conditions de la collecte des prix se sont améliorées au mois de juillet et que seuls 5 points de vente n'ont pu être enquêtés, car inaccessibles ou détruits. En moyenne, bien sûr, après avoir augmenté de 1,3% en juin, les prix à la consommation sont donc repartis à la baisse en juillet, un fléchissement qui s'explique principalement par la diminution des prix de l'énergie à moins 2,7% après une succession de hausses depuis le mois de mars, moins 5,2% pour l'essence et moins 4,3% pour le gazole en juillet. Les prix de l'électricité et du gaz, eux, restent stables. L'autre baisse à moins 0,7% concerne les produits manufacturés. Elle s'explique notamment par des actions de promotion, voire de déstockage, jusqu'à moins 8,3% pour les vêtements ou encore moins 2% pour le mobilier. En revanche, les prix de la nourriture pour animaux augmentent de 2,6%. Autre secteur à la baisse, l'alimentation. Après une hausse record de 3,7% en juin, les prix de l'alimentation baissent de 0,6% en juillet. Un fléchissement dû principalement à la pleine saison de production maraîchère. Ainsi, les prix des légumes baissent de 6,5% et ceux des fruits de 1,8%. Les prix du poisson baissent également de 2,8%. En revanche, les prix des fromages et des œufs ont augmenté de 2,5%. Enfin, les prix des services restent stables. En moyenne, sur un an, les prix de l'énergie ont donc progressé de 1,5%. Ceux de l'alimentation sont en hausse de 3,6%. Les prix à la consommation sont globalement en hausse sur un an de 1%.
Et puis parlons de la situation du tourisme. Évidemment, depuis le 13 mai, les professionnels sont durement touchés, mais en province sud, ils ressentent un léger retour d'activité, Michael Juneski.
Évidemment, on ne crée pas victoire dans le secteur du tourisme après les graves conséquences des derniers mois, mais pour ces vacances scolaires et cette semaine du 15 août, et de manière générale avec le calme relatif, les conditions de sécurité rétablies selon les zones du territoire sur les axes routiers, eh bien des prestataires touristiques ont été contactés pour relancer leurs activités en province sud, principalement sur la côte ouest. Des structures qui tentent de sortir la tête de l'eau. Marion Barthes est responsable marketing pour Sud Tourisme.
On reste positif. Il y a eu quand même pas mal de réservations. Les personnes ont recommencé en quelque sorte à bouger, à ressortir un petit peu. On a eu des retours de différents gîtes, par exemple, des activités qui ont effectivement eu du succès pendant ces vacances. Donc, c'est plutôt positif. Il y a eu une très, très belle fréquentation au niveau du parc provincial des Grandes Fougères, avec notamment la réouverture de l'activité Acrobranche. Beaucoup, beaucoup de succès. Également, pas mal de fréquentation au niveau du parc provincial zoologique et forestier à Nouméa. On va voir pour l'après, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt encourageant.
Pour celles et ceux qui souhaitent encore organiser des vacances, ça se prépare dans cette période compliquée.
Tout à fait. Donc, Sud Tourisme, on a créé une page dédiée sur notre site internet qui permet en fait de référencer toutes les offres spéciales, actualités, événements, alors surtout sur la période des vacances scolaires, mais pour tout le mois d'août. On l'alimente vraiment quotidiennement. On la met à jour en fonction des retours des différents prestataires touristiques. L'idée, c'est voilà, qu'on puisse mettre en avant tout ce qui est possible de faire aujourd'hui sur tous les bassins de la province sud. Donc, on invite vraiment les prestataires touristiques à nous envoyer leurs offres et voilà, pour augmenter la visibilité de tout ce qu'on peut faire dans notre belle province.
Une activité touristique qui reprend doucement donc durant ces vacances scolaires en province sud, avec principalement les familles nouméennes, mais également les militaires en permission, représentant eux aussi une commande d'activité non négligeable pour les prestataires. Bien entendu, le constat est tout autre pour la province nord et la province des îles, où les conditions sont très différentes pour envisager une réelle reprise de l'activité touristique.
On a parlé tout à l'heure des retours en cours lundi après les vacances, mais en attendant, ce sont toujours les vacances avec de nombreuses activités pour les enfants. À Nouméa, le club de l'Olympique propose un stage de tennis avec pour particularité qu'il s'est entraîné par un champion, c'est Nicolas Ngodrella. Un stage ludique, mais pas de tout repos pour ces graines de champion.
D'avoir un champion qui nous entraîne, c'est un peu comme un joueur que t'adores, genre Djokovic, qui t'entraînait, mais en un grand joueur de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est cool. Les entraînements, ils sont bien, ils sont un peu durs parce qu'on fait du gainage des fois, mais ça nous entraîne plus que d'habitude, j'ai l'impression.
C'est dur, on doit tout le temps bouger. À chaque cours, on fait du gainage. Si on va pas chercher la balle en courant, c'est gainage. Et voilà, il faut tout le temps courir, tout le temps bouger. D'abord, on commence toujours par un échauffement et après, on s'entraîne. Et à la fin, à chaque fois, on fait des points, comme des vrais matchs.
Le club a donc repris ses stages de vacances ce mois-ci à cause de la crise, explique Alain Chabrier, le responsable du tennis club de l'Olympique. Il a fallu mettre en place de nouveaux dispositifs pour attirer du monde.
On est une nouvelle équipe, il y a moi, il y a Nicolas Ngodrella qui est l'actuel champion de Nouvelle-Calédonie et Anthony Ascuaga aussi qui est notre moniteur diplômé d'État. Donc tout est reparti comme avant avec du sang neuf et puis voilà, les enfants sont très contents. Beaucoup de gens ont repris le sport aussi, avaient envie un peu de se défouler comme tout le monde ne pouvait plus rien faire, les clubs étaient été fermée. Donc voilà, tout est reparti et même encore mieux, même, je dirais. On a encore beaucoup plus d'enfants qui reviennent. Mais bon, je pense que l'équipe y fait aussi et donc ça remet un coup de positif à fond. Dans un mois, on va avoir 3 padels de plus. Voilà, donc ça fera 5 padels au club. Terrain de pick and ball aussi. Donc voilà, le club a pas mal de projets de développement qui devraient être super. Donc déjà, on voit bien la différence aussi avec le padel. Ça ramène énormément de monde au club et même le tennis repart aussi parce que le monde amène le monde et donc du coup les gens ils aiment bien venir au club même pour boire un verre, voilà. Ça crée beaucoup d'ambiance, ouais.
Alain Chabrier, le responsable du tennis club de l'Olympique. 11h56, une nouvelle pause avant de voir dans un instant l'essentiel d'actualité en métropole et dans le monde.
RRB 11h-13h Infomag, Jean-François Bodin. Vous savez que vous devez faire contrôler ou changer les pneus de votre véhicule de marque premium, mais savez-vous que Prestige Motor, c'est aussi un service minute de montage de pneumatiques? Un service première classe, rapide, avec de nombreuses références disponibles et sans rendez-vous dédié à tous les véhicules premium. Vous méritez le meilleur, vos pneus aussi. Prestige Motors, au 6e kilomètre. Téléphone 44 30 00.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Bodin.
Et oui, maintenant que les JO sont terminés, l'actualité politique refait surface en métropole. Le président de la République réfléchit toujours à la nomination de son Premier ministre et chacun cherche sa majorité à l'Assemblée nationale. Lucie Casté a envoyé une lettre aux parlementaires, Laurent Marcangeli aussi au nom d'Horizon et Gabriel Attal fait de même. Le Premier ministre démissionnaire, chef du groupe Ensemble pour la République, propose un pacte législatif qui irait du Parti socialiste aux Républicains, sauf ceux de la tendance Ciotti, mais sans le Nouveau Front populaire ou le Rassemblement national, ce qui représente tout de même quelques 200 députés. Un déni de démocratie, estime le député RN des Bouches-du-Rhône, Franck Alizio.
Le pouvoir en place veulent voler leur vote aux Français. Il y aurait zéro changement, ni en termes de politique économique, ni en termes de pouvoir d'achat, ni en termes évidemment de sécurité et d'immigration. Donc c'est une dissolution qui n'a servi à rien, qui nous propose de continuer alors qu'ils ont été défaits par les urnes.
En faisant cette proposition de pacte législatif, Gabriel Attal veut, dit-il, éviter un blocage et permettre au bloc central de faire des réformes que l'attendent les Français. À l'étranger, l'offensive de l'armée ukrainienne en territoire russe va-t-elle changer la donne plus de 2 ans maintenant après le début de la guerre? Kiev affirme contrôler 47 localités sur plus de 1000 km² dans la région de Koursk. Cette offensive vise à étirer les troupes russes qui seront occupées sur plusieurs fronts. Mais elle pourrait aussi ouvrir la voie à des négociations, estime Eugène Berg, diplomate et spécialiste du conflit russo-ukrainien.
L'objectif, c'est se présenter en meilleure position de négociation, soit en ayant des territoires, soit en acculant les Russes à négocier, montrer qu'on a une capacité de combattre par rapport aux alliés, au moment où les F-16 arrivent. Aussi important, c'est de remonter l'espoir des Ukrainiens. Ne lâchons pas, on commence à remporter, c'est pas le moment de baisser les bras, et ainsi de suite.
Eugène Berg, diplomate et spécialiste du conflit russo-ukrainien. En Grèce, 700 pompiers, 200 véhicules et 9 avions luttent contre les flammes dans la région d'Athènes. Même si les conditions météo semblent s'améliorer, la situation reste très compliquée. Le point avec Maxime Gondelot pour Europe 1.
La situation évolue très vite en fonction des conditions climatiques. Manolis a 60 ans. Il vit à Hippocratus Politia, une commune dans la banlieue nord d'Athènes. Il a vu l'incendie de ses yeux.
Au départ, c'était un incendie de forêt. L'incendie s'est développé de manière très rapide. Il y a eu un front qui s'est explosé en deux ou en trois fronts différents. Il y avait un front qui se dirigeait vers le sud et il y avait un autre front qui se dirigeait vers le sud-est. C'était comme l'enfer de Dante, si je peux le décrire ainsi.
Alors la nuit dernière a été bénéfique pour les pompiers, notamment grâce à la chute du vent, comme le confirme le commandant Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
La nuit a été favorable pour les sapeurs-pompiers grecs, puisqu'on a senti une baisse du vent dès ce matin sur zone, ce qui a permis de ralentir de manière considérable l'évolution du sinistre. Il faut savoir qu'un feu se bat notamment la nuit et c'est grâce justement à une action concertée directement sur le terrain que le feu aujourd'hui a ralenti en termes d'intensité.
Sur place, ce sont plus de 700 pompiers accompagnés de 200 véhicules et 9 avions qui luttent depuis 3 jours contre le feu. Des renforts venus de 6 pays européens dont la France sont actuellement en route et devraient commencer à arriver dès demain.
Et puis les Jeux Olympiques sont terminés, mais pas le business autour des produits dérivés et autres objets liés à ces Jeux Olympiques. Le site de revente en ligne Winted est particulièrement actif sur le sujet. On y trouve bien sûr des tenues de volontaires, mais aussi des objets beaucoup plus insolites. Brieux Brochet pour Europe 1.
Prenez par exemple les Eco Cups et gobelets rouges Coca-Cola utilisés sur les sites olympiques. Eh bien, ils font fureur, hein. Ils se revendent jusqu'à 15 euros sur Vinted. Et il y a aussi les fameux pins distribués parmi les athlètes. Des centaines d'entre eux sont en vente de 1 jusqu'à 90 euros. Mais on trouve aussi des produits plus inattendus, des médailles gagnées lors du marathon pour tous de samedi soir. J'en ai repéré certaines à 190 euros. Et en payant 3 fois plus cher, vous pouvez même acquérir des bouts de la piste olympique du Stade de France. Vous ne rêvez pas, ils avaient été offerts par le fabricant à certains clients. Alors il n'y a pas que les goodies qui se revendent, les produits dérivés des enseignes partenaires aussi, comme le constate Virginie Saint-Rose, directrice du partenariat Paris 2024 chez Decathlon.
On a notamment eu un best-seller qui était la Sherpa, qui était une polaire. On pouvait adapter avec des écussons son sport préféré. Et ça, ça a été un best-seller. C'est comme, comme certains des éléments de la tenue des volontaires qui s'est retrouvée sur Vinted.
Il reste d'ailleurs des tenues de volontaires en stock, hein, mais pour espérer les voir en rayon, il va falloir attendre l'accord du comité olympique.
Il est midi et 2 minutes, la dernière pause avant de voir toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Tout le sport avec Jean-François Baudin, mais on salue d'abord notre partenaire.
Avec Decathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Decathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Decathlon, à fond la forme.
Alors d'abord le football, Michael Juneski et le club de Lille qui a passé le cap du 3e tour de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.
Oui, en arrachant le match nul dans les prolongations sur le terrain des Turcs de Fenerbahçe. Un but partout, une semaine après la victoire à domicile 2-1. Le LOSC a gagné le droit de jouer les barrages pour espérer disputer la Champions League. Une fin de rencontre au scénario de folie aujourd'hui. Égalisation juste avant le coup de sifflet final. Exclusion d'Aïssa Mendy qui a placé Lille en infériorité numérique dans les prolongations. Et enfin, une main dans la surface d'un défenseur de Fenerbahçe pour voir Jonathan David inscrire sur pénalty le but égalisateur à la 116e minute de jeu. Le coach de Lille, Bruno Genesio, aurait tout de même préféré un scénario différent.
Je pense que sur les deux matchs, la qualification est plutôt méritée, même si je regrette qu'on n'ait pas joué la deuxième mi-temps ce soir. On a fait une très bonne première mi-temps avec une bonne maîtrise, une domination qu'on aurait dû concrétiser avec un peu plus de culot, je pense. On aurait certainement pu marquer. Par contre, de nouveau, le caractère à 10 avec des très jeunes joueurs qui, pour la plupart, faisaient leur premier match en professionnel. Aller chercher la qualif ici, dans ce contexte-là, ça montre qu'on a beaucoup de caractère, avec un peu de réussite aussi, puis un gardien qui nous a encore une fois bien aidés.
Et les Lillois ne sont plus qu'à 2 matchs d'une potentielle aventure dans la compétition reine des clubs. Ils retrouveront les Tchèques du Slavia Prague pour un premier choc mercredi prochain.
Le foot toujours, et Kylian Mbappé jouera son premier match sous les couleurs du Real de Madrid demain matin.
La Super Coupe d'Europe, un premier trophée en vue pour l'attaquant de l'équipe de France qui a dû renoncer à l'aventure olympique. 8 jours après la reprise des entraînements, Mbappé devrait être titulaire pour sa première sortie avec le club de la capitale espagnole, vainqueur donc de la dernière Ligue des Champions. Le Real Madrid croisera le fer avec les Italiens de l'Atalanta Bergame, vainqueur de la dernière Ligue Europa. En revanche, un autre tricolore évoluant chez les Madrilènes, Eduardo Camavinga, s'est blessé à l'entraînement. Il est forfait pour cette finale. Le match se disputera en Pologne, à Varsovie. Coup d'envoi de cette finale, Real Madrid-Atalanta Bergame à 6h demain matin, heure de Nouméa.
Et puis parlons du championnat de France de Ligue 1. Le football qui fait relâche, évidemment, ce sont les vacances. Mais pendant ce temps-là, le club de Bordeaux tente d'éviter la rétrogradation en National 2.
Les Girondins ont décidé d'avoir recours au CNOSF après leur rétrogradation confirmée hier en appel. Ils n'ont pas abdiqué. Le club bordelais emploie ainsi un dernier recours possible pour réintégrer la National 1, malgré les graves difficultés financières de cet acteur historique du championnat de France élite. En cas de proposition de conciliation de la part du CNOSF, il appartiendra à la FFF de trancher.
Le reste du sport, c'est du cyclisme et du tennis. D'abord le cyclisme avec le Tour de France féminin.
Et la victoire de Demi Vollering sur le contre-la-montre à Rotterdam. La néerlandaise tenante du titre prend au passage le maillot jaune à l'issue de cette troisième étape. La française Cédrine Kerbel a terminé à la quatrième place de cette étape. Dès ce soir, le peloton féminin s'attaquera à un parcours avec pas moins de 8 cols jusqu'à Liège. Une quatrième étape à suivre à partir de 21h10 pour nous.
Et puis l'actualité du tennis, c'est la suite du Masters 1000 de Cincinnati.
Arthur Fils lance son premier tour en ce moment même face à l'Américain issu des qualifications. Brandon Holt, en revanche, toujours chez les tricolores, Giovanni Mbetchepe-Ricard s'est incliné contre le Chinois Xinjiang Zheng. Défaite aussi d'Hugo Humbert face à l'Australien Jordan Thompson en 3-7, 3-6, 6-3, 7-6. Chez les dames, c'est passé pour Varvara Agracheva. Elle a dominé l'Australienne Tomljanovic en 3-7.